Donc ce soir, ça recommandera des miracles, ce soir, ils ont dépassé les femmes. Il est 20h21, vous êtes bien à l'émission Prophétie. Donc Inch'Allah, on va reprendre avec Ahmed, c'est une fois tous les 15 jours, sur la thématique de la résurrection.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ فغيسير auditeur auditrice chers amis très heureux d'être parmi vous ce soir pour pouvoir partager quelques minutes avant la prière de Maghrib quelques minutes de ce sujet très important qui parle du monde de l'invisible qui n'est connu que par Allah, loué soit-il, qui lui l'a créé, et que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran et dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis et nous a éclairé au sujet de certaines notions concernant ce monde invisible auquel nous croyons. Je fais juste un petit rappel de ce monde invisible. Nous avons déjà vu le verset dans la sourate Al-Baqarah, au début de la sourate, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle des croyants pieux en disant Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Donc, Alif Lam Mim, le Coran est un livre de guidé pour des gens pieux qui croient en l'invisible. Et donc la croyance en l'invisible, pour nous les musulmans, elle est primordiale dans notre foi. Elle fait partie, si vous vous rappelez, on l'a juste rappelé puisque tout musulman le connaît, et même des non-musulmans connaissent les piliers de l'islam et les piliers de la foi en islam. Et il fait partie, cette croyance en l'invisible fait partie des fondements de la foi islamique qui sont du nombre de 6, c'est le 6e pilier. Et c'est le 5e et 6e pilier de la foi. Le 5e, c'est croire en le jour de la résurrection. Le 6e, c'est croire en la prédestination. Et la prédestination fait partie de l'invisible, du monde invisible. Un monde qui est pour nous, comme disent les chrétiens, un monde de mystère, que nous, on ne peut pas connaître. La croyance en l'invisible pour nous musulmans, elle fait en sorte que l'invisible est pour nous composé de 3 parties. Des choses invisibles qui font partie de notre passé humain et en tant que créature de Dieu, des choses invisibles qui concernent notre présent, car quiconque parmi nous, là où il se trouve, il ne peut pas connaître tout ce qui se passe dans le monde. Et donc il y a dans le monde des choses qui nous dépassent, il y a dans le monde des choses qui existent que nous ne connaissons pas, et donc ils font partie des choses invisibles pour nous, des choses méconnaissables par nous, et qui sont de la connaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui nous a révélés ou qui ne les a pas révélés. Aussi, des choses de troisième catégorie, c'est le monde invisible du futur. Et c'est notre sujet principal que nous avons entrepris depuis quelques mois, on va dire 2-3 mois, à travers lequel on essaye premièrement de connaître, de comprendre et de savoir comment faire quand ça va arriver, et ça va arriver certainement, c'est notre foi, nous y croyons, alhamdoulilah, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, on y croit, parce que croire en ces choses, même si pour certains c'est du sort du mystère, pour certains c'est du sort du mythe, c'est des histoires, mais pour nous c'est une réalité, c'est une vérité, parce que celui qui nous l'a révélé, nous croyons en lui sans le voir, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ces choses-là, on les découvre de plus en plus. Allah nous en a parlé depuis qu'il a révélé le Coran. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis 14 siècles, nous a éclairé là-dessus. Et nous découvrons de plus en plus ces choses qui sont citées dans le Coran et la Sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ce monde du futur invisible commence par la mort. Nous en avons parlé. On a fait la part des choses là-dessus. Après la mort, on a dit l'attente dans un jardin du paradis ou dans une fosse de l'enfer. Le jour arrivera sans aucun doute, où l'ange Safriel soufflera la première fois dans la trompe, et puis Allah fera disparaître tout, et celui qui fait disparaître tout, il ne reste que lui, car il n'y avait que lui avant de faire apparaître tout. tel qu'il l'a fait apparaître, il le fera disparaître, subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, sourate ar-Rahman, le tout miséricordieux. La sourate le tout miséricordieux nous dit Allah azza wa jal dans cette sourate, tout ce qui est sur terre et dans les cieux disparaîtra, restera que la face de ton Seigneur, c'est-à-dire que lui, subhanahu wa ta'ala. Puis après, il réapparaîtra ce monde, une nouvelle fois. La terre sera autre que celle que nous connaissons aujourd'hui, plus grande, plus belle, nous dit le Coran, et la Sunna, le professeur Sam nous l'a cité dans plusieurs hadiths, plus grande parce qu'elle doit supporter toutes les créatures djinns et êtres humains qui vont être jugés sur cette terre, encore plus grande parce qu'ils vont être jugés dans un lieu parmi les lieux de cette terre, c'est-à-dire elle serait énorme pour pouvoir supporter tout ça. Puis un feu qui sortira, qui surgira du Yémen, qui fera pousser les gens jusqu'au lieu, on a dit, après la résurrection, le feu qui pousse les gens vers le lieu du regroupement, le Hashr. Puis après le regroupement, il y a le Nashr, c'est-à-dire la diffusion des dossiers, et ces dossiers sont sous forme de livres, et dans ce livre il y a trois dossiers. Un dossier qui concerne les bonnes actions, un dossier qui concerne les mauvaises actions, un dossier qui concerne les bienfaits d'Allah par lesquels il nous a tous comblés, croyants et non croyants. Mm-hmm. Puis après, les balances vont descendre du ciel et les gens vont voir tout ça. Les anges vont descendre avec. Chacun aura sa balance. Chacun y sera jugé tout seul. À chacun, il y aura une part, bien sûr, le concernant de la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala, imminente qu'elle est. Puis chacun va voir ses actes qu'il a fait, comme si il prend une cassette, il rebobine la cassette de sa vie, il voit tout ce qu'il a fait. Donc Allah tabaraka wa ta'ala le dit à plusieurs reprises dans le Coran al-Karim, notamment sur le Qiyam, sur la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu nafsin bima kasabat rahina, chaque être humain va revoir et revisualiser tout ce qu'il a vécu auparavant dans le passé, mais dans un instant très rapide, dans un moment très rapide, pardon, il va tout revoir. Et puis après, bien sûr, on avait cité les deux anges qui vont l'accompagner pendant ce jugement. La personne, tout individu sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par autre qu'Allah. Donc le seul juge ce jour-là, c'est Allah. Il va le dire lui-même, à qui appartient la royauté aujourd'hui. Personne ne répondra, il répondra lui-même. Lillahi al-wahid al-qahhar, dans sourate le pardonneur. Allah le cite trois fois dans cette sourate. Liman il-mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, alors que tout le monde va se taire par humilité et écrasement devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, bien sûr, le soleil va s'approcher des têtes. Et il ne va pas nous faciliter la tâche. Sachez que nous allons tous vivre ces moments-là. Puis le jugement commencera pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ce soir, inshallah ta'ala, on va prendre deux ou trois hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et méditer dans leur sens. Et essayer de voir au niveau pratique comment nous vivons par rapport à ces hadiths, pour ceux qui ne les connaissent pas, et comment devrions-nous vivre à partir du moment où nous les connaissons, ces hadiths-là. Le premier hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith se trouve dans les deux authenticités, le Bukhari ou le Muslim, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à sa umma, à sa nation, s'adresse aux musulmans. Il dit quiconque, n'importe lequel parmi vous, aux musulmans, sera le premier, sera le jour du jugement, questionné sur la première chose dans sa vie. C'est laquelle, ya Rasulallah, il dit la salat, la prière. Si elle est bonne, toutes les actions seront bonnes. Si elle est mauvaise, tout ce qui en suit serait mauvais. Cela veut dire que la prière, c'est une action. Cela veut dire que la prière, c'est une action du croyant, du musulman, et la prière elle-même, elle agit sur le musulman. Donc, puisqu'il dit, alayhi salam, si elle est bonne, toutes les autres actions seront bonnes. Donc, elle fait partie des actions du croyant. Et ça, on le sait. Certains l'oublient. Ils prennent la prière et la salat comme une routine pour ceux qui la font. D'autres, ils la négligent. Ils n'y font pas attention. ils croient qu'Allah les a créés pour une futilité et qu'ils en ont pas besoin de cette prière. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit que toutes les créatures de la terre et des cieux se prosternent à Allah, face à Allah, elles se prosternent face à Allah de leur plein gré ou contre leur gré. C'est-à-dire dans leur nature, ils se prosternent à Allah, toutes les créatures. Alors celui qui sait que dans sa nature, il se prosterne à Allah, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, pourquoi ne pas le vouloir vraiment et le faire vraiment avec une volonté propre à lui et par amour pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala et remerciement pour les bienfaits d'Allah par lesquels il l'a comblé. Donc, cette prière, cette salat que nous faisons, mon frère, ma sœur, cette salat, le jour du jugement, c'est la première chose au sujet de laquelle sera questionnée la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque individu. Si elle est bonne, tout serait bon. Si elle ne l'est pas, tous les autres actes ne le seront pas. Pourquoi ? On a dit parce qu'elle fait partie des actes du musulman, mais aussi parce qu'elle agit sur le musulman. Si ta prière, mon frère, ma sœur, elle est faite d'une manière convenable, elle agira sur moi, elle rendra mes actions convenables par la suite. Si elle ne l'est pas vraiment, ça sera ainsi, pareil, telle que elle est cette prière pour moi, telle que mes actes seront, ils reflèteront l'effet de la prière sur moi. Si je prends la prière en futilité, bien sûr mes actes ils seront futiles par la suite. Il ne faut pas croire que parce qu'on fait des efforts, parce qu'on agit dans tel ou tel domaine, parce qu'on travaille 8 heures par jour, parce qu'on a construit ou on a acheté une maison, parce qu'on s'occupe des enfants que nous avons et de nos épouses, parce que c'est suffisant, que la prière n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Il faut savoir que toutes ces actions que nous faisons, s'ils n'ont pas le cachet, c'est comme une lettre qu'on met dans une enveloppe, qu'on veut envoyer à quelqu'un, et on prend l'enveloppe, on ne met pas la destination, on ne met pas l'adresse du destinataire, et on ne met pas le timbre. Alors, est-ce qu'elle va arriver ? Pas du tout. Ça serait comme si, comme on dit au bled, en dialecte, on donne une lettre à quelqu'un, on lui dit Armiha, c'est si tu le traduis, jette-la. C'est ça. En dialecte, on dit Armiha, armit le bras. Je l'ai jeté. Ça serait jeté, cette lettre, dans la poubelle. Ça serait, au lieu que ce soit une boîte aux lettres de la poste, ce serait une poubelle. Parce qu'après, le facteur, il va pas s'en occuper du tout. La même chose, si tu n'as pas destiné, si tu n'as pas noté le destinataire de ton action, tu fais des actes, tu agis dans la vie, certainement, c'est obligé, un acteur dans la vie, il agit dans la vie. Mais comment il agit ? S'il n'y a pas la destination, il n'y aura pas de récompense. Ça n'arrivera pas. Si ce n'est pas voué pour Allah, ça n'arrivera pas. Et comment oserais-je vouer quelque chose pour Allah alors que je ne le connais pas ? Comment oserais-je noter le nom et l'adresse d'une personne que je ne connais pas ? Ce serait la folie, ce serait l'ignorance totale. Je vais choisir n'importe et écrire l'adresse et envoyer comme ça. Non, il faut que je sois vraiment conscient de à qui je vais envoyer cette lettre. Donc, pour qui je fais cette action ? Premièrement, c'est vouer l'action pour Allah. Vouer l'action pour Allah, cette sincérité ne peut pas aboutir vraiment si la personne, elle ne s'acquitte pas d'un devoir très important, qui est le devoir d'acheter le timbre et de le mettre sur l'enveloppe. Parce qu'il ne suffit pas de décrire l'adresse. Il ne suffit pas d'écrire le nom et l'adresse de la personne. Il faut rajouter quoi ? Le timbre. Hein ? Parce qu'il se peut que je me dise, aïe, ça y est, je suis musulman, j'agis, je fais de bonnes actions. Rabbi Iqbal, qu'Allah accepte de moi, qu'Allah agrée. Mais après, pour qu'Allah agrée, il faut faire quelque chose. Comme pour que l'enveloppe, la lettre, soit arrivée à destination, alors que j'ai noté la destination, il faut qu'il y ait le timbre pour que ça arrive. Hein? La même chose, c'est pareil. Et nous, nous avons un problème souvent de problème d'espoir, et en réalité c'est un faux espoir que nous avons. La personne, elle veut, je donne un exemple, une personne, c'est un agriculteur, d'accord ? Il veut, cet agriculteur veut planter des graines de blé, d'accord ? Pour avoir du blé dans son champ. Alors cet agriculteur, il n'achète pas les graines de blé. Et il dit, j'espère, Inch'Allah, que le blé pousse dans mon champ. Et est-ce qu'il va y avoir de blé dans son champ ? Impossible, ce serait la folie. La même chose. Quelqu'un, il achète à Ikhlas, il a acheté les graines de blé et les a laissées dans l'entrepôt. Et il espère que le blé pousse. Impossible que les épis poussent. Il faut qu'il fasse l'effort. Hein ? Encore, il a fait l'effort, il a mis les graines de blé, d'accord ? Mais il n'a pas, alors qu'il n'y a pas de pluie, et il a les moyens d'agrégation, d'avoir yani, l'eau, de la ramener avec en suivant des canaux de transmission d'eau et tout ça, des puits et tout ça, et il ne va pas faire l'effort, il ne va pas aller jusqu'au moteur pour le mettre en marche au puits, et il laisse. Hein. Est-ce que ça va pousser ? Non, ça va mourir. Hein. Allez, après, il a mis l'eau, mais il a mis trop d'eau. Ou là, il a mis peu d'eau. Mmh. Encore, allez, il a bien mis l'eau. Mais le problème, c'est qu'après, il n'a pas suivi les épis. Il n'a pas protégé contre les bactéries, les microbes qui touchent les insectes. Est-ce que ça va donner vraiment la récolte qu'il faut ? Non. C'est pour ça, on veut arriver à un but. Il faut utiliser les moyens adéquats à ce but. Et le but, c'est espérer quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut utiliser les moyens. Et parmi ces moyens, le plus important, le principal, c'est ce que Allah a demandé aux croyants de faire pour son bien-être. C'est les 5 prières canoniques que nous avons, et au sujet desquelles, le jour où on se mettra en face de notre Seigneur, la première chose au sujet desquelles on sera questionné, as-salat, la prière. Si elle est bonne, toutes les autres actions, elles le seront, inshallah. Car elle fait partie des actions, et car aussi, elle agit sur le croyant, lui permettant d'avoir quoi ? De bonnes actions. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit que la salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Elle te préserve de toute mauvaise action, action blâmable, turpitude et ainsi de suite. Et même si le croyant, parce que le croyant, le musulman, il comme tous les autres humains, il est faillible, il peut oublier, il peut tomber, il peut glisser, hein, comme tout le monde. La prière, elle est là pour lui rappeler qui il est. Rappeler que son Seigneur est là. Il attend qu'il demande, Ya Rabbi, pardonne-moi. Hein? La prière, elle fait disparaître les péchés mineurs. Et ça, avec un tifar, consensus des savants. Alladina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfira. Ton Seigneur a étendu largement le pardon. Pourquoi ? Pour ces péchés qui sont de nombreux péchés qu'on commet tous les jours. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas moi combien j'ai commis de péchés. Donc l'être humain est faillible. On n'est pas des anges. L'islam, il agit sur nous en tant qu'être humain. Il n'est pas là pour les anges. Et c'est pour ça qu'on est appelé à s'acquitter de ce devoir que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et qu'il ne nous rapporte que du bien. On a les 5 prières canoniques. Au sujet desquels, c'est les premières choses au sujet desquelles nous serons questionnés. Lakin rahmatullah wasi'a, la miséricorde d'Allah est largement étendue, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam nous rappelle aussi, en nous disant, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir posé cette question, et que les anges, ils ont regardé sur les dossiers, et dans le dossier des prières, ils ont trouvé quelques erreurs dans les prières qu'a commis ce fidèle musulman ou cette fidèle musulmane. Quelques oublis, quelques moments dans lesquels il n'était pas conscient pendant ses prières, des prières qu'il a fait en retard, d'accord ? Des moments où il était dans la faiblesse totale et tout ça, et il n'a pas fait ses prières. Alors Allah Azza wa Jalla, par sa miséricorde, leur dit, regardez dans le dossier des prières volontaires, ce qu'on appelle le surrogatoire. Si mon fidèle a des prières volontaires, ben, mettez-les pour qu'elles comblent ce vide qu'il y a. Il ne faut pas que nous, on coupe cette corde tendue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la miséricorde de notre Seigneur, et qu'on dise vous faites ça ou vous ne le faites pas. Non, on dit faites-le, faites votre possible, vous serez questionné, mais vous serez questionné par un juge juste et tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. C'est ça yani, qu'il faut rappeler aux gens, inshallah, et à nous-mêmes en priorité. Voilà, inshallah, pour cette petite partie avant de faire la prière.
Allah, je sais bien. Farid, tu nous as calé quelques versets du Coran. Vas-y, tu peux lancer, Chou. On a profité de cette pause pour célébrer Salat al-Maghrib, donc taqabbalna minkum. Il y a un certain nombre de questions qu'on se gardera de répondre dans la deuxième partie. Juste reprendre la suite, hein, on parlait donc de croire l'invisible et notamment le monde invisible dans le futur, et on rapporte beaucoup de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le Yawm al-Qiyama, hein. On est dans une suite logique depuis plusieurs émissions et on a aujourd'hui donc cité le premier hadith, en l'occurrence sur la première interrogation que nous allons tous et toutes subir, c'est qu'a-t-on fait de nos prières? Qu'en est-il de nos prières? Si la prière est bonne, toutes les actions sont bonnes. Si la prière est mauvaise, toutes les actions qui suivent sont mauvaises. Et on est rentré un petit peu dans les détails sur comment accomplir la prière, qui est conditionnée par la crainte et la conscience de se présenter devant son Seigneur pendant la prière.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Et cela, Issa, relève des secrets de la prière et de la relation intime qu'a le fidèle entre lui et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'individu certes est appelé à faire la prière, mais le prophète alayhi salatu wasalam nous a dit que les prières canoniques faites en groupe et en communauté et dans l'ensemble, elles sont au niveau de la récompense plus importante. Et ça incite les gens à s'entraider pour prier ensemble. C'est une solution pour celui qui n'arrive pas à prier tout seul, pour celui qui néglige la prière quand il est tout seul. Et donc, cela relève aussi de la bonne compagnie, pour accompagner la personne dans ce cheminement spirituel concernant la prière. Mais ça, on peut y revenir, inshallah ta'ala, et par rapport à ce que pourrait se poser comme question nos auditeurs concernant la prière, et surtout s'il y a des personnes qui ont certaines difficultés à appliquer la prière, à la pratiquer en étant concentré et conscient de ce qu'on fait. Certaines personnes ont des difficultés à se réveiller à la prière de l'Fajr, par exemple celle de l'aube. Certaines personnes ont des difficultés à pouvoir prier, appliquer la prière à l'heure et s'en acquitter à l'heure. Certaines personnes ont des difficultés à prier normalement parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont fatigués, parce que c'est des femmes enceintes, parce que. Tout ça, on peut, inshallah ta'ala, grâce à Dieu, s'il nous le permet, de répondre aux attentes de nos auditeurs s'ils ont des questions là-dessus. Maintenant, passons au deuxième hadith. Et le deuxième hadith nous parle toujours de cette période qui est très très difficile. C'est une période d'épreuve pour les croyants, et excusez-moi si je ne parle que de la résurrection et du jugement du croyant, du musulman, parce que je veux que l'émission tourne autour de ça, pour qu'on puisse s'en sortir, nous, déjà. Par contre, le non-musulman, il est appelé à croire, il n'est pas appelé à prier. D'accord ? Il est appelé d'abord à croire, et après on verra s'il prie ou il ne prie pas. Donc, le deuxième hadith, c'est un hadith dans lequel le professeur Asselem parle de sa communauté aussi. Il dit, le jour de la résurrection, trois types de personnes de ma communauté seront en enfer. Dieu ne leur parlera pas, ne s'adressera pas à eux directement, et Dieu négligera même le regard vis-à-vis d'eux. car le regard vis-à-vis de quelqu'un, c'est-à-dire l'importance. Il ne leur donnera ni importance et ne s'adressera pas du tout à eux, ces gens-là. Et passeront par l'enfer, qu'Allah nous préserve. Trois types de personnes. Lesquels, il y a Rasulallah, au messager de Dieu, c'est qui ces trois personnes? Il nous dit, le premier, Qari'ul Qur'an, l'enseignant de la religion. Quelqu'un qui enseigne la religion aux gens. Il se met face à Dieu. Dieu, à travers les anges, lui pose la question. Les anges s'adressent à lui parce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il ne leur donne pas d'importance à cause de leurs méfaits, on va le voir, qu'il ne s'adressera pas directement à eux. Alors il dit aux anges de leur dire. Les anges vont leur dire, vous avez enseigné. Oui, Dieu vous a comblé par les bienfaits. Tel bienfait, tel bienfait, tel bienfait. Commence alors à compter les bienfaits d'Allah sur eux. Alors ils confirment ce que Allah leur a donné et les bienfaits par lesquels il les a comblés. Et parmi ces bienfaits, c'est que Allah leur a enseigné la religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith connu et authentique, il a dit quiconque Allah chérit, il lui fait comprendre la religion. D'accord ? Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Alors, après qu'ils ont reconnu tout ça, que la personne a reconnu tout ça, c'est un type de personne, c'est plusieurs personnes en fait dans le même cas, et qu'ils ont reconnu le bienfait d'Allah sur eux du fait qu'il les a guidés, qu'il leur a fait comprendre la religion, et qu'ils sont devenus des maîtres, des enseignants de cette religion, alors Allah leur pose la question à travers les anges, qu'avez-vous fait avec ce que Allah vous a donné comme bienfait? Et le plus noble bienfait, c'est le fait qu'il vous a rendu des enseignants de la religion. Ils disent, ô Seigneur, nous l'avons transmis pour toi à tes fidèles. Allah dit, vous êtes des menteurs. Et les anges transmettent, vous êtes des menteurs. Et ils ont témoigné, les anges, vous êtes des menteurs. Pourquoi? Alors il leur dit, vous n'avez fait cela que pour qu'on dise de vous, vous êtes savants, vous êtes professeurs, vous êtes docteurs. Vous êtes et vous êtes et vous êtes ces titres que certains sont flattés par leurs citations quand on les mentionne et que certains exigent à l'avoir quand on les mentionne les titres de théologien, les titres de islamologue, les titres de spécialiste, de tout ça. Non. Et donc ils disent, vous n'avez fait cela pas pour Dieu, vous ne l'avez fait que pour que on dise de vous, vous êtes des maîtres, vous êtes tel et tel et tel. Et ça, c'est de l'ostentation. C'est de l'ostentation qui est appelée par le professeur Asselem l'associationnisme caché. C'est une forme de shirk billah, subhanahu wa ta'ala, l'ostentation. Alors là, Allah dit aux anges, prenez ces personnes, jetez-les en enfer. Ils vont passer des années en enfer avant d'être sauvés de l'enfer, rendre des comptes, rendre leurs dettes vis-à-vis de Dieu, car ça a touché la sincérité. Le profond de la foi, ça a été touché, parce qu'ils n'étaient pas sincères vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas fait cela pour Dieu, pas pour l'agrément d'Allah, pas pour la récompense venant d'Allah, pas pour le titre qu'Allah leur a choisi. Ils ont cherché un autre titre auprès des gens. Deuxième type, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Al-Mutasaddiq, celui qui fait aumône. Alors les anges s'adressent à lui en lui faisant le compte des bienfaits d'Allah sur lui. Ils l'y reconnaissent. Et le plus noble des bienfaits d'Allah sur ce type de personne, c'est qu'il les a enrichis. Ils sont riches. Et en plus, il leur a donné la foi. Et en plus de ça, il leur a permis de faire aumône. Et de donner aumône, et de partager ses richesses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont privées de ce bienfait venant d'Allah, qui est le bienfait d'avoir la volonté de donner. D'accord ? Alors Allah leur a permis de donner. Alors les anges leur disent, vous avez reconnu, oui on a reconnu. Mais qu'est-ce que vous en avez fait ? qu'avez-vous fait de ces biens, vous avez fait de, qu'avez-vous fait de ces richesses? Ils ont dit, ô Seigneur, nous les avons, ils vont dire, ô Seigneur, nous les avons partagés avec les pauvres. Nous les avons donnés en aumône aux pauvres. Nous avons été des personnes charitables. Allah a dit, menteur que vous êtes. Les anges disent aussi, menteur que vous êtes. Ils ont témoigné, les anges, de leurs faits. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, vous n'avez fait cela pour que les gens disent, vous êtes généreux. Et ça a été dit. Et vous avez été flatté, ça vous a plu. Et quand quelqu'un ne le dit pas, ça vous déplaisait. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, jetez-les en enfer. Ils doivent rendre des comptes, ils doivent rendre des dettes du fait qu'ils n'étaient pas sincères vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah les a enrichis et il leur a permis de partager ses richesses. Troisième type de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce sont les martyrs. Eh oui, beaucoup de gens croient que toute personne qui est dite martyr, où les gens ils ont témoigné qu'elle est morte en martyr, ça y est, elle est considérée martyr par Allah. Ah non, pas tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe? La personne qui a fait ce qu'on appelle yani, la guerre, elle est morte, sabilillah, une personne qui a été, parce que le martyr, c'est pas uniquement ceux qui meurent pendant la guerre de défense de la terre de l'islam, ou la défense de l'honneur, ou la défense des biens, et ainsi de suite. Mais c'est aussi les personnes qui sont mortes en défendant quelqu'un, ou elles sont mortes en protégeant quelqu'un, ou elles sont mortes en sauvant quelqu'un. Imaginez un pompier qui va, croyant, qui va sauver des vies et qui meurt pendant qu'il y ait le feu dans un bâtiment, et ainsi de suite. Il est martyr. Hein? Mais ça dépend de son intention. Alors, les martyrs, certains martyrs, ils se mettent devant Allah. Allah a dit aux anges, faites le compte des bienfaits d'Allah sur eux. Ils reconnaissent. Le meilleur bienfait d'Allah sur eux, que eux, ils estiment, c'est le fait qu'il leur a permis de mourir dans le sentier de Dieu. C'est-à-dire mourir pour une bonne cause, n'importe laquelle, pour sauver, pour protéger, hein? Alors ils reconnaissent ce bienfait d'Allah. Qu'en avez-vous fait? Alors ils disent, nous sommes morts dans le sentier de Dieu, pour Dieu, cherchant l'agrément de Dieu. Allah a dit, vous êtes menteurs. Les anges disent en témoignant, vous êtes menteurs. Vous n'avez fait cela que pour qu'on dise, vous êtes des héros. Les héros de la guerre, les héros de, hein, des bonnes actions, les héros pour sauver, hein, et ainsi de suite. Et ça a été dit. Et cela vous a plu à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous êtes mort. Alors Allah dit, passage en enfer obligatoire. Jetez-les en enfer. Qu'Allah nous préserve. Tout ce hadith nous parle de quoi? Le premier, on avait parlé, nous a rappelé la prière et l'importance de la prière. Et la sauvegarde grâce à la prière. Et la miséricorde d'Allah à travers, par et pour et grâce à la prière. Ce deuxième hadith, il nous parle de la sauvegarde grâce à la sincérité. Et c'est une miséricorde d'Allah. Celui qui a la sincérité, il est comblé par yani, un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cherchons, yani, inshallah ta'ala, cette sincérité pour qu'on puisse être sauvé de l'enfer ce jour-là, qu'on puisse être dans la zumra, le groupe du prophète, et des messagers, des prophètes et messagers qui vont aller au paradis, inshallah ta'ala.
Ce hadith nous rappelle aussi le hadith parmi les 40 hadiths de Nawawi, le premier sur le ne valent que selon l'intention qu'il y a derrière.
Naam, très bien.
On en avait déjà apporté le contenu.
Oui, et le verset 111 de la sourate, le verset 111 de la sourate La Caverne, qui dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ce verset dit, quiconque parmi vous espère une bonne rencontre avec son Seigneur, une rencontre d'agrément, ben qu'il fasse une bonne œuvre sincère pour Allah. Donc elle est bonne, mais en même temps elle est sincère pour Allah. Allah Azza wa Jalla dit aussi dans sourate La Preuve, le Bayyina, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils n'ont été appelés qu'à adorer Allah uniquement dans son unicité, et ne lui associer aucune autre divinité avec sincérité. Voilà, Inch'Allah.
Avec la fille. Une courte pause, Farid, je ne sais pas si tu nous aimais encore du Coran ou oui. Elle va être courte, Inch'Allah, pour qu'on puisse aborder le troisième hadith, comme on l'a dit en début d'émission. Et ensuite, on abordera les questions qui avaient été posées, Inch'Allah. On reprend la suite de notre émission avant d'aborder le troisième hadith qui va dans le même sens des deux premiers. On va juste rappeler les petites informations sur les conférences qui ont lieu très prochainement. À commencer par la conférence de dimanche 8 avril à partir de 14h30 à la salle des fêtes du Parc des Sports Vélodrome, c'est venu devant Van der Mach à Roubaix. Conférence sur l'islam et l'Occident, le prophète Salam, une miséricorde pour l'humanité. Donc plusieurs intervenants, Mohamed Ayouaz, en espérant bien le prononcer, docteur en théologie, qui abordera le thème l'aspect universel de l'islam. Raleb Benchir, théologien islamologue, sur le thème le dialogue entre les religions et la promotion des valeurs de tolérance et des libertés culturelles. Et Madame Mahbouba Merchaoui, docteur en philosophie, donc sur le rôle de la femme dans la société contemporaine. Donc ceci dimanche à partir de 14h30, salle des fêtes du Van der Merch à Roubaix. L'association Rencontre Dialogue que nous sommes organise une conférence intitulée L'âge d'or des sciences arabes, donc par le professeur Ahmed Djebal, qui est chercheur en histoire des sciences et professeur à l'université de Lille. Ce sera la salle des conférences de la mairie de Roubaix. Mardi 10 avril, donc mardi prochain, mardi 10 avril à partir de 19h, l'entrée étant libre, la salle des conférences directement à la mairie, c'est en face de la bibliothèque municipale. Donc l'âge d'or des sciences arabes par le professeur Ahmed Djebal. On reprend sans plus attendre sur le temps de hadith. On rappelle les auditeurs, les auditrices qui ont appelé Orden pour certaines questions qui restent à l'écoute jusqu'à la fin. On s'occupera de la dernière demi-heure, pour répondre à ces questions. Je vous rappelle le numéro du standard 03 20 73 59 00 03 20 73 59 00 pour vos questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. C'est Ahmed.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alors, après avoir vu l'importance de la prière, l'importance de la sincérité, et quelle protection nous offriront ces deux actes importants dans notre religion le jour de la résurrection, il y a un troisième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi d'autres et d'autres hadiths, et tant d'autres. Le hadith dans lequel le prophète alayhi wa sallam nous dit: nul parmi vous ne quittera sa place le jour du jugement jusqu'à ce qu'il soit questionné au sujet de quatre choses. Nul parmi vous ne quittera sa place le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit questionné sur quatre choses et y répondre. La première chose, nous dit le prophète sallam, Allah lui posera la question concernant sa vie. Qu'est-ce qu'il en a fait de sa vie? Deuxième chose, sa jeunesse. Dans quoi il l'a dépensé? Troisième chose, son argent. Et ses biens. Comment il les a gagnés? Et dans quoi il les a utilisés? Quatrième question, ses connaissances, qu'en a-t-il fait? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: La tata'u qadama ahadim minkum yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba' an umurihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min ayna iktasabahu wa madha fa'ala bihi wa an ilmihi madha amila fihi. Quatre choses, mes frères et sœurs, très importantes. Si on prend chacune de ces choses-là, on en ferait toute une émission de 2 heures pour chacune. La première chose et la première question, c'est: qu'en as-tu fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Allah t'a donné la vie. Dans quoi tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as fait pendant ta vie, durant toute ta vie? T'as fait quoi? Et cette question devrait être la question que chaque musulman posera à chaque fois qu'il mettra sa tête sur son oreiller avant de dormir. Une journée de vie. qu'est-ce qu'il a fait pendant cette journée de la vie. Parce que le sommeil, il est le semblable de la mort. Mm-hmm. C'est le frère de la mort. Hein? Et donc, la vie que nous avons menée, et la vie que nous menons, qu'est-ce que nous en avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait durant cette vie ? Quels sont les actes que nous avons pu faire qui ont fait que nous soyons des gens vivants ? Des gens qui vraiment baignent dans la vie. Vraiment qui utilisent la vie pour des fins nobles. Hein? Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie ? Le commandeur des croyants, Omar ibn Khattab, nous a conseillé, nous a dit, Hasibu anfusakum. Questionnez-vous avant d'être questionné le jour du jugement. Wazinuha qabla an tuzana alaykum. Et pesez le pour et le contre avant qu'il ne soit pesé pour vous ou contre vous le jour du jugement. Avant, il faut le faire. Et donc, si le professeur Asselin nous a cité ce hadith avec ces quatre questions, c'est pour nous dire, posez ces questions à vous-même ici, avant de les subir le jour du jugement, avant d'être appelé à y répondre le jour du jugement. Allah, dans le Coran, dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, il nous dit que le jour du jugement, chacun d'entre nous aura un livre dans lequel il y aura ces dossiers que nous avons cités les trois. Et Allah lui dira, Iqra kitabak, lis ton livre, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu te suffis à toi-même comme juge aujourd'hui. Tu te suffis à toi-même comme juge aujourd'hui. Et donc, suffisons-nous comme juge aujourd'hui, pendant notre vie, tant que nous sommes vivants, tant que l'agonie n'est pas encore arrivée, tant qu'on a encore cette opportunité de la part de Dieu de vivre encore, pour qu'on pose ces questions à nous-mêmes et qu'on essaye de se réformer, inshallah ta'ala, et de changer. Alors le professeur Hassan nous dit, questionnez-vous avant d'être questionné par rapport à ce hadith. Vous serez questionné sur votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait de la vie ? Est-elle ou a-t-elle été vraiment une vie pour vous et pour ceux qui vous ont entouré ? Qu'est-ce que vous étiez dans cette vie ? Un élément pour ouvrir les portes du bien et fermer les portes du mal ? Ou le contraire, un élément dans la vie pour ouvrir les portes du mal et fermer les portes du bien ? Qu'est-ce que vous étiez dans cette vie pour vous et pour ceux qui vous entourent ? Vous étiez un élément positif ou un élément négatif pour vous-même et pour ceux qui vous entourent ? Tout ça, on doit y penser. Et toutes ces questions, on doit y répondre. À chacun, tout seul, là où il se trouve, il doit répondre à ces questions qui sont très très importantes et primordiales pour notre vie, si nous voulons vraiment vivre. Mmh. Et que le jour du jugement, nous puissions être sauvés et vivre encore une vie saine, une vie noble, une vie belle au paradis. Et c'est pour ça que celui qui veut le paradis, il faut qu'il le prépare ici. Le jour du jugement, on a dit qu'il y aura des gens qui vont passer sans être jugés. Eh bien, jugeons-nous aujourd'hui. Que chacun juge sa propre personne. Que chacun fasse le tri pour qu'il puisse se débarrasser. Et que le jour du jugement, il arrive alors que ça y est. Ce que dit notre Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Haqqa, la véritable. Il dit Allah Azza wa Jal que les gens de la droite, parmi eux, il y a des gens qui vont donner leur dossier aux anges, et ils vont dire aux anges, prenez mon dossier, j'ai pas à le lire, j'ai pas à le consulter, je savais déjà, je me rendais compte que j'allais rendre des comptes, alors je les ai rendus déjà sur terre, avant de mourir. C'est pour ça qu'il y a des savants, parmi les maîtres des savants de l'islam, qui, on avait dit, dans le jardin de sa maison, il avait creusé une tombe, préparé une tombe. Mais c'est pas pour être enterré, mais c'est pour lui rappeler son enterrement. Et donc chaque soir, avant de dormir, il rentre dans sa tombe et il demande pardon à Allah. Il juge sa propre personne, il regarde qu'est-ce qu'il a fait dans sa journée. Et puis après, il remonte, il va dans son lit. Aussi, un autre maître, parmi nos maîtres qui avait un cahier de charges. Dans son cahier de charges, chaque page, elle était partagée en deux. Une partie pour les bonnes actions, une partie pour les mauvaises actions. Et là, il regarde. Chaque soir, avant de dormir, il écrit. D'abord, voilà ce que j'ai fait de mal dans ma journée. Et sur la droite, il écrit, voilà ce que j'ai fait de bien. Il essaye d'écrire les bonnes actions par lesquelles il pourrait effacer les mauvaises qu'il avait commises. Et une fois, on a rapporté de lui qu'il a compté 21 mauvaises actions. Vous imaginez? Je vais vous donner le nom de cette personne. Soufiane Thaouri, le commandeur des croyants dans le hadith à l'époque. Vous imaginez Soufiane Thaouri, il compte 21 mauvaises actions dans sa journée. Et puis après, une fois, ils ont raconté qu'il était en train d'écrire et il voulait passer, alors qu'il a écrit les mauvaises actions, il voulait passer à écrire les bonnes actions et n'en trouvait plus. Aucune. Dans sa tête, il n'y avait pas de bonnes actions. Alors je vous... Allez, regardez, mes frères et sœurs, si maintenant on ferme nos yeux, on réfléchit bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? On va les compter, on va en trouver. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et après, je vous dis, ben, réfléchissez, qu'est-ce qu'on a fait de bien? On aura du mal à en trouver. Et si on trouve peu. Parce qu'on ne fait pas attention aux bonnes actions que nous commettons. Pourquoi? Parce que on ne fait pas attention à notre sincérité, on ne fait pas attention à ce qui nous attend, on ne fait pas attention à la mort, on ne fait pas attention à la tombe, on ne fait pas attention au jugement, on ne fait pas attention à la rencontre avec Allah. Voilà. Et donc, l'imam, Soufiane Thaouri, il n'en trouvait pas, il a paniqué, il a commencé à paniquer, à pleurer, jusqu'à ce qu'il s'est rappelé « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la shahada ». Et il a écrit la shahada. C'est ça qui sauve. Il a écrit la shahada. Et donc, c'est très important de savoir c'est quoi cette vie dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce qu'elle est? A-t-elle une valeur pour notre Seigneur? Quelle est sa véritable valeur auprès de notre Seigneur? Quelle est sa véritable valeur dans nos cœurs, cette vie que nous menons? Puis, cette vie que nous menons, c'est tout un ensemble de créatures et de créations autour de nous. Et nous, on en fait partie. Quelle importance avons-nous par rapport à toutes ces créatures? Pourquoi Allah nous a créés? Pourquoi à cet instant? Pourquoi je vis dans cette ère? Précisément, pourquoi Allah a choisi que je vive la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle? Pourquoi dans ce lieu, dans ce contexte dans lequel je suis? Pourquoi cette famille dans laquelle je m'inscris? Pourquoi cette composante musulmane dans laquelle je suis? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Tout ça, il faudrait que chacun d'entre nous puisse poser ces questions et les réponses se trouvent facilement. Lisez le Coran, vous trouverez pour quelles raisons nous avons été créés. Vous trouverez pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi pour nous tel ou tel contexte. Lisez le Coran, attachez-vous à la parole d'Allah, vous trouverez des réponses et des réponses. Mais soyons sérieux et sincères, inshallah ta'ala, et Allah nous aide. Alors, deuxième question, c'est votre jeunesse. Et subhanallah, regardez, nous les jeunes, on sait très bien l'importance de la jeunesse. Et celui qui va nous dire c'est quoi l'importance de la jeunesse, c'est le Coran. Allah a cité les jeunes dans le Coran Karim. Dans la sourate qui est au milieu du Coran, la sourate Al-Kahf, la caverne. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Quand Allah a cité les jeunes dans le Coran, il les a cités par la qualité de la foi. Les croyants, innahum fityatun, ce sont des jeunes gens croyants. Amanu bi rabbihim, qui croyaient en leur Seigneur. Wazidnahum huda, et nous leur avons fait guider. Et puis, quand vous trouverez, vous regardez dans le Coran al-Karim, Allah à chaque fois cite certains messagers envoyés, et cite qu'ils avaient des apôtres. Je vous donne juste l'exemple de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam avait comme apôtres des jeunes. Les 12 cités, que ce soit dans l'évangile ou que ce soit dans le Coran. Des jeunes gens autour de Isa alayhi salam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient jeunes. Le plus jeune avait, quand il a embrassé l'islam, il avait 10 ans. Le plus âgé, c'était Abu Bakr Siddiq. Il avait dans la quarantaine. Et donc, c'était des jeunes. Il n'avait pas atteint la quarantaine, pardon, à Abu Bakr Siddiq. Parce que entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 ans et quelques mois d'écart. Mm-hmm. Et donc, ces jeunes-là qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il les a loués, alayhi wa sallam. Il a dit, Allah m'a glorifié par les jeunes et il m'a déçu par les plus âgés. Et donc, l'islam donne une importance à la jeunesse parce que c'est un âge qui est central dans la vie. Un âge entre l'adolescence, l'enfance et la vieillesse jusqu'à la mort. C'est un âge très important dans lequel Allah nous donne toutes les forces possibles. La force intellectuelle, la force morale, la force spirituelle, la force physique. Tout ça, il nous le donne durant cette période de la jeunesse. Mm-hmm. C'est pour ça que le jour du jugement, il va nous dire, qu'avez-vous fait de votre jeunesse? Dans quoi cette jeunesse vous l'avez dépensée? Il utilise vraiment ce terme, dépense. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهِ, dit le prophète sallam. C'est-à-dire que c'est une qualité et en même temps c'est une énergie à dépenser. Et dans quoi tu l'as dépensée cette énergie? Tu l'as dépensée à être un hétiste, à te coller au mur, à laisser ta trace au mur, ou à laisser ta trace en faisant des tags dans les murs, ou dans les ascenseurs, ou sur les portes, en cassant, en fraudant. C'est dans quoi tu as dépensé cette force que Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, qu'elle soit la force et l'énergie intellectuelle que tu as, parce que au niveau intellectuel tu es plus poussé et ton énergie est plus importante, et au niveau de l'énergie morale et spirituelle, parce que tu es dans la soif. N'importe quel jeune, il est dans la soif de faire quoi? De remplir son temps. Il cherche à remplir son temps. Et c'est pour ça que quand il ne trouve pas les moyens spirituels, il va se mettre à remplir son temps par autre chose, et qui serait en dépit de sa propre personne, contre lui. Et aussi, la force physique aussi, elle est importante. C'est pour ça que les jeunes, ils doivent dépenser cette force physique dans des choses louables, qui vont faire en sorte que les gens vont les louer par la suite. Et qui, par la suite, dans le futur, quand ils vont vieillir, ils vont louer leur jeunesse, eux, durant leur vieillesse. Et non pas, ils vont maudire leur jeunesse quand ils seront vieux. Et regretter ce qu'ils ont commis et qui a été en dépit de leur propre personne, qui les a fait souffrir à la fin de leur vie. Et donc, la période de la jeunesse, elle est très très importante, mes frères et sœurs, auditeurs et auditrices, mes amis. Puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose une autre question. Il dit une question que vous allez devoir poser. C'est la question de quoi? De l'argent, les biens que vous possédez. Comment vous l'avez gagné? Comment tu as gagné ton argent? Est-ce dans le licite ou dans l'illicite? Est-ce que tu l'as gagné parce que tu le méritais ou tu l'as gagné autrement? Est-ce de l'argent mérité ou est-ce de l'argent facile? Par la drogue, par le vol, par. Et donc, tout ça, il faut qu'on se le pose. Et sachez, mon frère, ma sœur, que chaque centime que nous gagnons, nous serons jugés le jour du jugement. Et ça va commencer dès l'autre mort. Et même, ça commence dès la vie avant la mort. Car nous le regretterons à la fin de notre vie. Car ce sera en dépit de notre propre personne. Il y aura des maladies graves qui touchera la personne qui s'est nourrie par le haram, par l'illicite, qui a gagné de l'argent et qui va le quitter. Elle va pleurer pour son argent et pour toutes les sommes qu'elle a dans le compte d'argent à laquelle elle s'est attachée, elle qu'elle a gagné dans l'illicite. Alors qu'elle quitte la vie, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas retourner et le prendre. Elle le laisse. Et beaucoup de gens, ils ont laissé derrière eux de l'argent sale que leurs enfants, après, les ont maudits du fait que cet argent était sale. Tellement ils étaient attachés à cet argent qu'ils ne l'ont pas dépensé pour leurs enfants, pour leurs propres enfants, leurs épouses. Tellement ils ont comblé, rempli leur compte, ils croient qu'ils vont vivre éternellement. Et ils ont négligé leurs enfants. Et heureusement pour ses enfants et ses épouses, et du fait qu'ils n'ont pas été nourris et habillés de cet argent sale et illicite. Alors, pour chaque chair, pour chaque cellule de la chair, du corps, de l'individu, de l'être humain, qui a été faite par de l'argent haram, par une nourriture haram, elle sera vouée à l'enfer, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque morceau de chair, chaque cellule qui a été faite par le haram, sa destination c'est brûler dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et donc l'argent, le gain de l'argent c'est très important, et gagner peu mais dans le halal c'est mieux que de gagner beaucoup d'argent sale et d'argent dans le haram, dans l'illicite, par le vol ou par l'escroquerie ou par on sait par aussi le riba, l'usure et les intérêts haram, qu'Allah nous préserve, et ainsi de suite. Quatrième question, pour finir avec ce hadith et non pas en finir, c'est la question de la science et la connaissance. Qu'en est-il de cette science? Allah t'a fait connaître certaines choses. Qu'as-tu fait avec ces choses? Allah t'a fait connaître que il a exigé pour toi, de toi, de faire la prière. L'as-tu fait ou tu l'as pas fait? Il a exigé pour toi, de toi, de jeûner. Qu'est-ce que tu en as fait? Il a exigé pour toi, de toi, de partager les biens, de donner l'aumône, les zakat, l'impôt religieuse. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il a exigé de toi, pour toi, d'être bon vis-à-vis de tes parents, d'avoir cette bonté pieuse vis-à-vis de tes parents, d'être bon vis-à-vis des voisins, d'être bon vis-à-vis du proche. Tout ça, c'est très important. Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre ici-bas. Répondre verbalement, répondre moralement, mais répondre aussi par l'action. Car les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Allah l'a dit dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi dans les 40 hadiths de Nawawi. Le hadith est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqillaha, crains Allah là où tu te trouves. Crains Allah là où tu te trouves. Cherche la piété là où tu te trouves. Sois pieux là où tu te trouves. Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fais la bonne action après la mauvaise, elle la fait disparaître. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et aie un noble caractère vis-à-vis des gens, dans ta relation avec les gens. Et donc, il faut que tu te poses cette question. Qu'est-ce que tu as fait, mon frère, ma sœur? Il faut que je me la pose à moi-même aussi. Qu'est-ce que j'ai fait avec les connaissances que j'ai? Tout ce que je vous ai dit ce soir, je dois me poser la question. Quelle est la part de pratique de ce que je dis? Et nous aussi tous, quelle est la part de pratique de ce que nous connaissons? Certes, on ne peut pas faire tout ce que nous connaissons, mais on doit faire selon nos larges moyens, nos larges possibilités. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, il dit. Wus'a, wasi', large. Largement. Ce qui est largement possible. Aller jusqu'au bout, par son effort. Et celui qui fait des efforts pour Allah, Allah lui trouve issue favorable. Lui ouvre les issues favorables pour le salut. Et la paix et d'ici bas et la paix éternelle dans l'au-delà, inshallah ta'ala. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que cette exhortation nous touche tous, et qu'elle fasse en sorte que nous soyons parmi ceux qui écoutent la parole, qui suivent la meilleure, inshallah.
En rappelant que chaque jour que l'on vit est un jour en moins dans notre vie, en fait, et non pas un jour de plus. Pour s'y préparer, on va passer dans la phase, il nous reste un bon quart d'heure, je propose de ne pas faire trop de pause, l'histoire de pouvoir faire, tu veux qu'on fasse une petite pause de 31 minutes ou deux? Je préférerais qu'on transite tout de suite sur les questions pour gagner du temps. Farid, on va tout de suite, il y a pas mal de questions, je voulais avoir d'aborder les questions, relater un fait d'une personne qui a donc appris qu'un de ses proches était atteint d'une maladie. Un cancer, et en l'occurrence qui a du mal à accepter cette réalité et cette vérité, et en fait quel conseil on peut donner pour qu'elle puisse supporter et accepter ce qui a été décidé mmh. par Allah. Je veux dire sans tomber dans le questionnement du style pourquoi moi, pourquoi ma famille, pourquoi Dieu tu fais ci, pourquoi Dieu tu fais cela. Mmh. C'est-à-dire au lieu d'accepter, du mal à accepter, bon, on peut comprendre que la personne soit humaine et qu'elle ait un peu de sentiments humains qui a du mal à accepter peut-être certaines réalités difficiles à accepter, mais n'empêche qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, quelle exhortation pour pouvoir passer le cap de l'épreuve.
Bismillah wa alhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam ala rasulillah. La première chose, c'est un petit rappel pour nous tous, hein. Mm-hmm. C'est que on ne peut pas se mettre dans la situation dans laquelle elle est la personne, à savoir que cette personne, elle se pose ces questions peut-être par ignorance, elle ne connaît pas vraiment Dieu comme il le faut. Mm-hmm. Mais nous, ce que nous savons de Dieu, imaginons qu'on soit dans la même situation que cette personne et qu'on fait pire mm-hmm. qu'elle. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas la juger, premièrement, ça c'est la première chose. Mm-hmm. Deuxième chose, il faut lui rappeler que la vie, elle est éphémère. Combien de personnes, il faut lui rappeler le passé. Combien de personnes, ils ont vécu longtemps, ils ont quitté cette vie. Combien de personnes, ils ont vécu, on voit dans l'apparence qu'ils sont heureux alors qu'ils sont malheureux à l'intérieur. Mm-hmm. Combien de personnes, ils ont la richesse, ils ont la force physique, ils ont la santé, la bonne santé on va dire, et en réalité, c'est des choses éphémères et des choses qui s'arrêtent. Et lui rappeler tout simplement le jour et la nuit. Regarde le jour et la nuit, ça part et ça revient. Mm-hmm. Et celui à qui tu appartiens, c'est lui qui décide, subhanahu wa ta'ala. Il a décidé ainsi, patiente. Car la patience, elle te permet de gagner dans l'épreuve. C'est une épreuve de la part d'Allah, pour qu'il te purifie des méfaits, des mauvaises actions. Et on ne peut pas nier, tout le monde commet des mauvaises actions. Et tout le monde commet des bonnes. Musulmans et non-musulmans. Mmh. Tout le monde fait des bonnes actions et de mauvaises actions. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé cette personne, c'est pour la purifier. Parce qu'il l'aime. Et parce qu'il veut que quand elle le rencontre, elle le rencontre pure mmh. de toute mauvaise action. Propre, belle, lumineuse, éclatante de lumière. De quoi ? De grâce aux bonnes actions qu'elle a gardées et que les mauvaises sont tombées. Mm-hmm. Et c'est pour ça que le prophète Aïssatou Salam a dit, mm-hmm. il a dit, quel étonnement face aux croyants. Lorsqu'il est touché par un bien, il remercie Allah. Allah a dit, si vous me remerciez, je vous en rajoute encore plus. Et quel étonnement face aux croyants. Lorsqu'il est touché par un mal, il patiente. Et Allah a dit, ceux qui patientent auront une grande récompense. Donc, cette personne, il ne faut pas qu'elle oublie les bienfaits d'Allah sur elle. Mmh. Une fois, la maladie peut être un bienfait dans quoi ? Dans le fait qu'elle a uni toute une famille autour de toi, mon frère malade ou ma sœur. Le fait que tu t'es rappelé de ce que tu avais fait, ça te donne le temps d'avoir un recul. Mmh. Tu ne baignes plus dans les problèmes dans lesquels tu étais et tu ne baignes plus dans les occupations de la vie éphémère dans laquelle nous sommes. Mais tu es dans une situation où tu vois les choses de loin. Et là, saisis l'occasion. Au contraire, on a tous besoin de toi, mon frère. Car tu es dans ces situations, tu es proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le dit. Tu es proche de lui, subhanahu wa ta'ala, et on a besoin de tes invocations, pour nous tous. Des invocations pour la paix, des invocations pour la sérénité, des invocations pour la sécurité, la sûreté, pour nous tous. Des invocations pour la santé. Si tu as été privé de la santé, eh bien invoque Allah qu'il préserve les autres, et surtout ta famille. Fais en sorte que ce qui reste de ta vie, comme ce qui reste de ma vie à moi, personne ne sait quand est-ce qu'on va mourir, il n'y a qu'Allah qui le sait. Ce qui reste de la vie, soit des moments de sérénité et des moments de partage de bonne attitude et de bonne action, de bonne parole avec autrui. Des moments de partage, de moments des actions spirituelles vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adoration. Mm-hmm. Et parmi ces actions, le prophète nous en a cité plein. Le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, nous l'avons cité l'autre fois. Elles emplissent entre la terre et le ciel de hasanat. Mm-hmm. Fructifie ce que tu es. Tu es dans une situation vraiment dans laquelle on ne peut que te dire alhamdulillah, tu es gâté par ton Seigneur si vraiment tu as la foi mm-hmm. en lui. Si vraiment tu patientes, alors patiente et foi en lui, et confiance en lui, il est capable de te guérir, subhanahu wa ta'ala, comme il est capable de ne pas le faire, mais cherche auprès de lui l'agrément. Si tu me guéris, agré au Seigneur. Si tu me laisses comme ça dans la maladie, agré, je ne veux que l'agrément de toi Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Mmh. Et si tu crois mon frère ou ma soeur qui est malade en la rencontre d'Allah, sois digne de cette rencontre, inshallah ta'ala, comme nous tous.
On a une personne, Farid, tu me dis à l'antenne, donc on va la prendre. Oui, allô.
Oui, salam alaikum.
Alaikum salam.
Je souhaiterais vous dire quelque chose. Je pratique l'islam. Mm-hmm. Ça fait très longtemps. Je lis le Coran, une petite kitab dans le métro, et j'ai eu des personnes, je ne peux pas dire de nom, mm-hmm. qui m'ont dit il ne faut pas lire le Coran, vous êtes française. Mm-hmm. J'ai répondu madame, j'ai le Dieu avec moi, pourquoi vous me parlez comme ça? Il n'y a que les musulmans qui mettent le voile, donc c'est un peu d'amalgame comme on dit, mais mm-hmm. je souhaite qu'on me réponde à cette question, et surtout je fais la prière. Mm-hmm. Je fais les 5 prières, je les fais chez moi. Mm-hmm. Je me suis présentée à la mosquée de Porte d'Arras parce que j'habite pas loin. Mm-hmm. Et on m'a refusé mon entrée.
D'accord. Donc vous êtes, française de souche, c'est ça?
Je suis française et je pratique l'islam.
Voilà,
je me sens bien dans ma peau. Mm-hmm. Je critique personne. Mm-hmm. Tout le monde, il est comme il est. Mm-hmm. Mais moi, j'ai Allah, comme on dit, dans ma foi, dans ma peau, dans mon cœur. Mm-hmm. Je fais la prière avec mon cœur, avec ma foi.
On a compris, ma soeur. Mais c'est quoi la question, s'il vous plaît?
Ma question, c'est parce que je souhaiterais savoir comment je peux faire.
Voilà,
je lis le Coran. Mm-hmm. On me dit, il ne faut pas le lire. Vous êtes française. Il faut être musulman pour le lire.
Bon, d'accord.
Mais vous êtes musulmane?
Maintenant, oui.
Il faut dire que vous êtes musulmane, oui, bien sûr. Inch'Allah. Donc, premièrement, par rapport à cette question de être non musulman et lire le Coran, avons-nous le droit de lire le Coran ou pas si on n'est pas musulman?
Oui.
Bien sûr qu'on a le droit. Le Coran, il est traduit et on le vend en furet et partout. Donc, on ne peut pas restreindre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement à ceux qui y croient. Mm-hmm. Et comment voulez-vous, ceux qui m'écoutent, comment voulez-vous que autrui puisse connaître la parole d'Allah sans la connaître, sans la lire, pardon? Mm-hmm. Donc la lecture du Coran par les non-musulmans, elle est louable pour au moins connaître ce que c'est, au moins. Et c'est une lecture, bien sûr, on a dit, à prendre en considération concernant le sens donné à cette lecture.
Mm-hmm.
C'est que cette lecture, elle est faite par des traducteurs. D'accord. C'est pour ça que on invite tous ceux qui lisent le Coran traduit à aussi assister à des cours et des conférences concernant l'exégèse du Coran, pour que ils puissent comprendre encore mieux et plus. Quant au fait de ne pas être reçu à une mosquée parce que vous êtes une femme, ou parce que on refuse l'accès parce que vous êtes non musulmane, c'est une chose qui est hors les normes islamiques. Car la mosquée, normalement dans l'islam, elle est toujours ouverte. Elle est ouverte à tout le monde, car c'est le lieu de la miséricorde de Dieu. Et personne ne peut fermer les portes de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors je vous invite, inshallah ta'ala, si vous habitez l'île, à aller à la mosquée de l'Iman, l'île sud, rue du Marquis. On ne vous refusera pas accès. Et si la mosquée de Porte d'Arras, je ne sais pas laquelle vous avez été, la mosquée de Porte d'Arras, si peut-être les gens ont mal compris, peut-être que vous étiez parti à un moment où personne ne pouvait vous recevoir. Et donc, ne généralisez pas.
Ouais.
Il y a eu un cas bien précis où il y a eu négligence ou erreur. Il ne faut pas le généraliser, inshallah ta'ala. Ne retenez rien dans votre cœur. Soyez, inshallah ta'ala, de bon cœur, inshallah, et pardonnez. Pardonnez, vous allez vivre bien, inshallah ta'ala.
Merci beaucoup.
De rien, ma soeur. Et qu'Allah vous protège, nous protège tous, et nous guide dans la droiture. Et puis, vous êtes dans votre famille et grande famille de l'islam, et personne ne doit vous traiter de française ou d'européenne. Vous êtes tout simplement citoyenne qui a choisi d'être musulmane.
Merci pour votre appel. D'autres questions qui ont été posées, notamment la question suivante. Il y a une maman qui a fait jurer à ses filles à ce qu'elles ne fassent pas de bêtises, et elle leur a demandé de jurer sur le Coran. Donc sa question, c'est est-ce qu'elle a bien fait de demander ça à ses filles?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ce domaine concerne l'éducation. Inch'Allah ta'ala, si Allah nous permet, on pourrait consacrer un moment ou plusieurs émissions à l'éducation religieuse, selon, bien sûr, la pédagogie de l'islam. Comment enseigner le noble caractère, comment le transmettre, comment préserver de ce qui est mauvais nos enfants. Je trouve que cette personne, si elle agit ainsi, c'est qu'elle est dépassée. C'est qu'elle n'a pas trouvé d'autres moyens pour, elle, se protéger et dire j'ai fait ce que j'ai à faire. Je les ai fait jurer sur le Coran et ça me suffit. Le Coran est grand, c'est la parole de Dieu. Ils vont le respecter. C'est pas comme moi. Je suis leur mère. Alors j'ai dit à la sœur, non, vous avez tort. L'imam Ali radiallahu anhu a dit, Allah fait effet sur les gens par la sultane, par l'État, par la police, par ça, d'accord, par tout ce qui est sûreté, il fait effet sur les gens par la sultane, par l'État, plus qu'il fait effet sur les gens par le Coran, par le Coran. Parce que les gens, et la plupart des gens, sont, et surtout dans notre monde, sont plus attachés à ce qui est matérialiste. D'accord. Et non pas à ce qui est spirituel. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que cette sœur ou cette personne puisse éduquer ses enfants à la respecter, elle, en tant que mère, et leur faire comprendre qu'elle les aime, et qu'elle veut leur bien, et qu'elle veut les protéger. Et à ce moment-là, elle n'aurait pas besoin de leur faire ce serment en posant la main sur le Coran et ainsi de suite, chose qui est une innovation dans l'islam illicite. On ne doit pas utiliser le Coran comme moyen de serment. On fait serment au nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais pour faire serment au nom de Dieu, il faut connaître ce Dieu, l'aimer et lui donner sa valeur. Et tout ça, c'est des étapes et des étapes d'éducation, d'initiation à l'islam et de formation à l'islam, que toute musulmane mère et tout musulman père doivent entreprendre pour l'éducation de leurs enfants depuis jeune âge. Depuis jeune âge, il faut répondre aux questions des enfants, il faut les laisser poser les questions concernant Dieu, il faut leur montrer qu'on les aime, il faut leur dire qu'on les aime, et il faut les côtoyer et vivre avec eux par amour, inshallah ta'ala. Et vous verrez, il suffit juste de dire et ça passe, inshallah. On n'a pas besoin de leur faire peur par le Coran, vous avez juré. Ils vont pas faire attention à tout ça. Tant qu'il n'y a rien dans le cœur, ils vont pas faire attention.
Autre question qui a été posée, suite à un décès, une personne voudrait faire ce qui est, me semble-t-il, une tradition des 40 jours, et elle voulait savoir, on lui a dit il fallait retirer un certain nombre de jours par enfant. On y reviendra sur cette question parce qu'on veut privilégier le direct, il y a quelqu'un qui est à l'antenne, on reprendra la question sur les 40 jours tout de suite après. Oui, allô.
Allô.
Oui.
Oui, salam alaikum.
Alaikum salam.
Voilà, j'aimerais poser une question à Ahmed.
Je vous en prie.
Ahmed, salam alaikum.
Alaikum salam.
D'abord, shukran katiran pour cette émission, cette leçon.
Permettez-moi de vous interrompre, juste si vous pouvez baisser le son de la radio qui est derrière vous.
Oui.
Parce que nous, on a un écho ici qui...
Oui.
Ça évitera les...
Ça, c'est mieux là ?
C'est bon.
Oui.
On pourrait t'écouter sans que tu t'arrêtes, Ahmed. Voilà, moi j'habite à Tourcoing et je suis parti travailler assez loin d'ici. Et donc, je suis revenu pour le week-end. Mmh. Je suis revenu pour le week-end tout en sachant que j'habite en ce moment, j'habite là-bas et j'habite ici, si on veut. Est-ce que...
C'est où là-bas, mon frère?
En Alsace.
En Alsace, d'accord.
Donc, quand je suis revenu ici pour le week-end, mmh. Est-ce que je peux faire la prière du voyageur ici, tout en sachant que, bien sûr, je reste que le week-end
Non. Tu peux faire la prière du voyageur, il faut la faire. C'est une sunna recommandée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mmh. Parce que toi, ta résidence principale, c'est en Alsace.
Non, enfin, j'ai toujours mes papiers, mon adresse ici.
C'est pas ça le plus important.
Ouais,
c'est
d'accord.
Le lieu où tu travailles, où tu vis.
D'accord.
Où tu dors, tu passes plus de temps.
D'accord.
Voilà, Inch'Allah.
D'accord. S'il te plaît.
Oui.
Est-ce que je peux te voir en privé, Ahmed?
Inch'Allah, je suis à la mosquée de Vinnabas, qui passe, Inch'Allah, ta'ala, aux prières du soir. Tu me trouveras, Inch'Allah, tu ne veux pas me rater.
D'accord, ok, ça marche. J'aurai un petit moment à prendre de ton temps.
Pas de problème, merci. Pas de problème.
Merci pour votre appel. On reprend la question qui a été posée. Il est 22h passé. On va essayer quand même de répondre aux questions en débordant 5 minutes. Il y en a sur les 40 jours. Donc, suite à un décès, elle voudrait faire les 40 jours. On lui a dit qu'il fallait enlever le nombre de jours par petits-enfants. Mmh. Donc, elle voulait en savoir plus sur tout ça.
C'est des innovations qui n'ont aucune base dans notre religion. Y compris les 40 jours. C'est une désobéissance à Dieu. Et tout individu qui fait cela, en sachant que c'est une désobéissance à Dieu, parce que je le dis. Et je demande à tout individu qui ne me croit pas, qu'il ramène des preuves que c'est une chose qui se trouve dans la religion. Mmh. Au contraire, c'est des choses que nous avons héritées de traditions qui sont souvent liées à d'autres religions qui ne sont pas la religion de l'islam. Les 40 jours et tout ça. Mmh. 40 jours de l'absence de Moïse au mont de Sinaï et tout ça. Mmh. Tout ça, c'est lié à la religion juive, n'a rien à voir avec notre religion. Mmh. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas dans notre enseignement prophétique. Mmh. Ça nous suffit ce que le prophète Hassan nous a enseigné. Merci. Et le deuil, il est dans le cœur, il n'est pas dans le nombre des jours. Le deuil, il est dans la présence ou l'absence de la personne dans notre vie. Mmh. La personne morte, défunte. Alors il faut, Inch'Allah ta'ala, faire en sorte que nous vivons sainement notre religion, notre quotidien. Et ça ne peut se faire que travers les enseignements du professeur Asselin. Peu de choses, mais bien.
Mmh. Souvent, le temps des 40 jours précise que c'est une aumône faite dans l'intérêt du défunt.
Donc, au contraire, le défunt va y souffrir. Il ne l'a jamais demandé. Et s'il l'a demandé, il est dans le tort. Et ce n'est pas parce qu'il l'a demandé qu'on va le faire. Donc, un défunt qui demande, avant de mourir, d'accomplir quelque chose d'illicite, bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Mm-hmm. Hein? Et donc les rites funèbres de l'islam sont des rites simples. Mm-hmm. Mais pour montrer que le côté relationnel et le côté d'affection et d'amour vis-à-vis de la personne morte, c'est le plus important. Ce ne sont pas les actes eux-mêmes. Mm-hmm. Parce qu'après, les gens, ça devient une routine. Mm-hmm. Ça devient des... Les gens, ils font des repas, ils invitent. Ça devient une fête après. Moi, j'ai vu les gens qui font les 3 jours de deuil juste après la mort, et après, ils font les 40 jours. Ils font le premier vendredi. Mm-hmm. Et tout ça, c'est des choses qui n'ont aucune base, même pas un mot dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. Rien de tout ça. Et durant ces 3 jours, t'as les gens qui viennent pour faire les condoléances, et ils font les condoléances quand ils arrivent, et puis après ça devient de la raillerie, ça devient des amusements, ça devient une fête. Mm-hmm. Carrément. Ils passent la nuit, et tout sur le dos de la famille du mort. Alors qu'on doit les aider dans leur deuil. Mmh. Et faire être de yani, ne pas être un fardeau pour eux. Mmh. Yani, pendant cette période. Mmh. Donc contentons-nous de ce que le prophète a enseigné, c'est le salut pour nous. C'est la meilleure, inshallah, entreprise et directive qu'il faut faire. Et Allah m'a permis d'écrire un livre, un petit livre qui s'appelle L'accompagnement du malade jusqu'à la mort. Et vous trouverez tous les hadiths du professeur Asselam dessus, qui nous parlent de ces rites et qui sont yani, halal par le professeur Allah. Voilà.
Dernière question, il y a une sœur qui avait été demandée en mariage, notamment par un Français converti, et après prendre connaissance de cette personne, plusieurs discussions. Donc elle a une façon de voir l'islam en dénigrant notamment par exemple le Français converti qui l'avait demandé en mariage dénigrerait par exemple Tariq Ramadan, Youssouf El Qardaoui en disant qu'ils sont à côté de la plaque, enfin le discours qu'on a parfois l'habitude d'entendre, et donc elle sait plus quelle attitude prendre. Est-ce qu'elle peut complètement elle voudrait remettre en cause la promesse qu'elle a peut-être donné.
Il a dû aussi mettre dénigrer Hassan Iqiyoussen et Ahmed Mikhtar.
C'est pas impossible, mais bon.
Ça, c'est une question piège. Mm-hmm. Pour voir si on va défendre les nôtres et dire que cette personne, elle n'est pas digne d'être un époux. Mm-hmm. Le prophète a dit si quelqu'un vient épouser votre fille, la demander au mariage, ou quelqu'un vient vous demander au mariage aux jeunes femmes, et que vous agréez sa religiosité et son caractère, épousez-le ou donnez-lui votre fille. Si cette sœur, elle trouve que ses réactions sont du sort du noble caractère, qu'elle l'épouse. Si elle trouve que c'est hors les nobles caractères, et je l'invite à se renseigner sur les nobles caractères et la relation avec les savants qu'on doit avoir et les du'ats, les enseignants de l'islam, si elle trouve que c'est une mauvaise entreprise au niveau du caractère, elle n'a qu'à prendre une autre décision, inch'Allah. Wallahu a'lam.
Allah yajazik bikhair, c'est Ahmed. Je vais dire c'est Hassan parce qu'on a eu la visite de Hassan tout à l'heure. Ahmed, je vais, pour finir l'émission, tu me permets 2 minutes de rappeler les dernières informations, après on rend l'antenne, pour donner le relais à l'émission Safina sur la culture du chant religieux. Donc vous restez à l'écoute jusqu'à 23h, inch'Allah, 23h et plus. Moi, je vous rappelle les 2 petites informations, à savoir le 2 conférences qui se proposent dans les prochains jours, notamment le 8 avril, c'est-à-dire dimanche, après-demain, 8 avril, à 14h30 à la salle des fêtes du Paris des Sports au Vélodrome, c'est l'avenue Vandermeersch, à côté du lycée Vandermeersch à Roubaix, plusieurs conférences sur l'islam et l'Occident, le professeur Salem, une miséricorde pour l'humanité. Donc plusieurs intervenants, c'est organisé par la Fédération Régionale de la Grande Mosquée de Paris, qui regroupe ici à Roubaix 3 mosquées, la mosquée Sunna, la mosquée d'Abou Bakr et la mosquée de Darwa. Donc la présence de Monsieur Mohamed Ayouaz, docteur en théologie, qui interviendra sur l'aspect universel de l'islam, Raleb Benchir, qui est théologien, sur le dialogue entre les religions et la promotion des valeurs de tolérance et des libertés culturelles, et Madame Mahbouba Merchaoui, qui est docteur en philosophie, qui interviendra sur le rôle de la femme dans la société contemporaine. Donc voilà, ça c'est la première conférence. Et nous-mêmes, Association Rencontre et Dialogue, organisons une conférence mardi prochain, intitulée L'âge d'or des sciences arabes, par le professeur Ahmed Djebar, qui est chercheur en histoire des sciences, professeur à l'université à Lille 1. Ce sera la salle des conférences de la mairie de Roubaix, donc c'est dans la mairie, face à la bibliothèque municipale. Ce sera mardi 10 avril à 19h, l'entrée étant libre, L'âge d'or des sciences arabes, donc par le professeur Ahmed Djebar. On vous remercie tous et toutes pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, inch'Allah, ou plutôt mardi, si ceux qui ont le plaisir de venir nous rencontrer à la mairie de Roubaix. Farid, tu peux retransmettre par des versets du Coran. On va donner le relais à l'émission Safina. On vous remercie pour votre fidélité. Ahmed, Rabbi Hamdik, Barakallahu Fik. Et on se retrouve la semaine prochaine, inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.